Chapitre 19. William Turner. Tout n'est que poussière. Lors de sa consultation de contrôle à l'Hôtel Dieu, Mona se sentit envahie par un profond malaise. L'ensemble des signaux était pourtant excellent. Son pouls, sa tension, ses réflexes, l'état de ses pupilles. Le médecin, qui demeurait vivement marqué par sa démonstration d'acuité visuelle lors de la séance précédente, avait envie de pousser l'examen un peu plus loin et évoquait un logiciel à destination des athlètes, des pilotes, des militaires. Le programme éprouvait, à partir d'exercices sur écran, les aptitudes d'un individu à observer les reliefs, à se focaliser sur un objet, à analyser une topographie, à saisir les nuances chromatiques. Il proposa à Mona de se prêter à cette évaluation une prochaine fois. Ses rendez-vous avec le docteur Van Horst en seraient devenus un jeu. Elle était toutefois hantée par deux non-dits qui l'inquiétaient. Le premier, c'était la signification de cette bribe de phrase entendue 2 mois plus tôt et dont elle ignorait toujours le sens, faute d'avoir osé le demander. C'est du 50-50. Le second, c'était évidemment l'épisode de cette brève cécité à la boutique de son père, dont, par crainte des conséquences, elle n'avait parlé à personne. La chape de silence qu'elle s'imposait s'apparentait désormais à un vieux mensonge. Percluse par ce tétanos mental, Mona ne se voyait pas avouer sa rechute maintenant. Elle ne se sentait pas davantage capable d'adhérer à une perspective trop heureuse, consistant à passer des tests qui aurait peut-être conclu à des qualités oculaires hors normes, en décalage avec ce qu'elle avait vécu. Elle était perdue et souriait maladroitement pour sauver la face. Et sa mère n'en était pas dupe. Le médecin cala les joues de Mona entre ses deux mains et chercha à la regarder dans les yeux pour la rassurer. Mais elle les avait fermés.
« Est-ce que ça va ? » tenta-t-il.
« Oui, » soupira-t-elle. Les paupières toujours closes. « Je crois que je veux bien essayer. »«
Bien.
La prochaine fois, nous te ferons passer quelques tests sur l'ordinateur. »« En fait, je parle d'autre chose. »«
Ah, et de quoi alors ?»
Mona ouvrit les yeux. Elle regarda sa mère, puis Van Horst. Elle leur déclara se sentir prête pour tenter l'hypnose.
« Ça, commenta le médecin, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un très grand pas. »
Camille en demeura tout ébahie. En une fraction de seconde, elle revit cet instant désormais lointain où le docteur avait proposé l'expérience. Elle revécut la défiance de Mona, le refus outrancier de Paul, son propre silence circonspect. En réalité, sans dire quoi que ce soit, elle avait toujours été très favorable à cette idée, dont le mélange de méthode et d'irrationalité lui ressemblait bien. Elle avait néanmoins compris que la décision ne pouvait venir que de Mona. D'où avait pu surgir ce soudain aplomb ? S'interrogeait-elle. L'enfant avait sûrement hérité du caractère de sa mère, mais en l'espèce, cette dernière songeait également au mystérieux psychiatre que l'enfant allait consulter chaque mercredi. Il faisait décidément bouger les lignes, voulut croire Camille. Mona l'ignorait, mais en ce mercredi de mars, se déroulait son ultime visite au Louvre avec son dadé, lequel, déjà nostalgique de ses moments, était un peu sombre. Sa mine balafrée contrastait avec l'extraordinaire incendie pictural de Joseph Mallord William Turner, qui servait de point final à cette première étape de l'initiation. C'était un paysage, mais comme filtré par une brume transparente. Il était d'une radiance extrême, infusant partout des gammes chromatiques chaudes. Au premier plan, une parcelle de terre était dépeinte sans la moindre touche de vert ou de marron. Des jaunes et des orangés en traçaient le très vague contour sans qu'il y eût nulle part de dessin. Cette parcelle enflait en un petit monticule à gauche, avec à ses pieds, suggéré par des virgules rouges, un personnage vaguement anthropomorphe allongé. Elle se bombait de la même manière à droite de la composition, et on y distinguait plus nettement, quoique tronqué par le cadre, deux troncs d'arbres et leur feuillage. À peu près au centre de la parcelle, partant de la base du tableau, un sentier s'enfonçait en un léger virage dans la profondeur qui disparaissait très vite, barré par une zone plus saturée et brunâtre qui eût pu figurer un rocher dans l'ombre. En poursuivant la perspective du sentier, mais dans le lointain, on tombait sur un fleuve qui cheminait jusqu'à un confluent. Pour y parvenir, il ondulait en deux méandres, un premier vers la gauche et un second vers la droite, dans une vallée aux crêtes plutôt basses. Dès la fin de la première courbe, les tonalités gris-bleu évoquant l'onde liquide se fondaient quasiment dans le jaune, quoique très pâle, mimosa en cet endroit du tableau. Mais elle réapparaissait plus loin pour figurer le plan d'eau, lequel semblait, sans certitude, bordé par un peu de terre sur la droite et sur la ligne d'horizon. Cette ligne, malgré le flou notoire de sa situation exacte qu'entretenaient les nappes de peinture et l'absence de dessin, séparait le tableau en deux moitiés à peu près égales. Dans la partie haute, une gigantesque voile translucide, dont on pouvait imaginer qu'il était une suspension de cirrostratus, occupait l'espace sans le boucher. L'angle supérieur droit laissait voir un coin du firmament derrière les nuages dissipés. Mona demeura sans bouger 22 minutes devant cette suggestion de paysage et sentit à son contact une vibration extatique. « C'est tellement beau, Dadé !» s'émut-elle. « On dirait un désert, c'est ça ?»« Oui, on dirait. » »« Parce que le trait et le dessin en sont complètement absents. » L'huile au ton vif, très dilué, puis tamponné par endroits avec un chiffon ou une éponge, donne en effet un aspect sablonneux à l'ensemble. On discerne bien un arbre, mais on ne saisit rien des édifices qu'en principe l'artiste aurait dû au moins esquisser. Ce site en réalité n'est pas du tout un désert, mais un paysage opulent et verdoyant du pays de Galles, le confluent entre la rivière Wye et le fleuve Severn. Si l'on se fie à la géographie, les ruines médiévales du château de Chepstow devraient théoriquement être visibles sur le flanc droit de la vallée. Ses contours crénelés ont été submergés par les tempêtes de pigments dorés de Turner. « Peut-être qu'il a triché parce qu'il ignorait comment les dessiner, dit. » « Non, il n'a pas triché. Il n'aurait eu aucun mal, s'il l'avait souhaité, à poser ce château au cœur de ce décor vide. » Il l'a d'ailleurs fait dans d'autres versions de ce paysage. Vois-tu, Turner s'est révélé très jeune un formidable dessinateur. Il est issu d'un milieu modeste, mais son père remarque ses qualités et dès l'adolescence, le petit William expose ses feuilles dans la boutique familiale et rencontre le succès. Alors qu'il n'est pas beaucoup plus vieux que toi, il collabore même avec des architectes. À leur côté, il a pour mission de figurer à partir de plans, de futures constructions afin d'encourager l'investissement des clients. William se montre très doué, si doué qu'il intègre la prestigieuse école de la Royal Academy à 14 ans et en devient membre à 26, un record. En fait, quand il commence son métier, il a un peu les mêmes débuts que Gainsborough, observa Mona, plutôt fière de son rapprochement. C'est juste. Il ne le fréquentera pas car Gainsborough meurt en 1788, tandis que Turner naît en 1775. Mais ils ont des points communs. Le plus important d'entre eux, c'est leur audace expérimentale. À l'époque, dans l'Angleterre de George III, la liberté n'est pas du tout une idée qui va de soi. Il fallait un certain tempérament pour la brandir, l'entretenir, en user. Et d'ailleurs, un des critiques les plus influents du temps de Turner, nommé George Holland Beaumont, lui reprocha de s'autoriser une trop grande latitude avec les teintes et la luminosité. Si, de nos jours, on estime qu'un artiste peut faire ce qu'il veut, il n'en a pas toujours été ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ici, Turner? Il ne fait rien de mal, mais il exploite abondamment ce qu'on appelle le jaune de chrome, un pigment très riche et très modulable commercialisé au début du XIXe siècle. Turner a eu une véritable passion pour le jaune. C'était sa folie, son obsession. Ses tableaux sont des chatoiements d'ambre, d'ocre, de terre de sienne, brunissant parfois jusqu'au fauve. Cette monomanie suscita bien des moqueries. Un illustrateur le caricatura par exemple debout devant son chevalet, muni d'un gros balai et un pot de jaune à ses pieds. Et puis cette luminosité presque diaphane, notamment là où commence la rivière avec ses réverbérations blanches, lui vient d'une transgression des conventions. Au lieu de préparer sa toile avec un fond sombre, Turner l'a préparée avec un fond clair. « Parle-moi de cette lumière, Dadé !» Turner était curieux des sciences physiques. Il se tenait donc informé du développement des connaissances sur la lumière. Il admirait aussi un peintre français du XVIIe siècle nommé Le Lorrain, qu'il a d'ailleurs copié et qui avait la manie de peindre des paysages avec un ardent soleil en face, comme s'il souhaitait éblouir son public. Ici, la nature est semblablement éclairée par le jour, mais on dirait surtout qu'elle cherche, par son chatoiement de jaune, à jaillir hors du tableau pour nous irradier, nous. Turner avait cette ambition folle de faire sentir le flux des éléments avec une intensité comparable à celle que nous éprouvons à leur contact direct. Ah ! En fait, il veut qu'on sente la nature comme si on était dans la nature ? Oui. Quand on y marche ou même quand on y vogue en pleine tempête. Une légende prétend qu'il s'était accroché au mât d'un bateau, au milieu de la houle et des ouragans, pour observer au cœur des tornades le déferlement de la matière liquide. Une fois qu'il s'était livré à cette expérience périlleuse, il pouvait faire ressentir concrètement à son public le tumulte des flots en figurant les trombes et les naufrages. Alors va savoir s'il n'a pas plongé dans un brasier pour peindre le paysage qu'on a devant les yeux. Ce Turner était encore plus aventurier que toi, Dadé. Il marchait sans cesse, des dizaines de kilomètres par jour, en quête de sensations fortes, dans la veine du Sturm und Drang, dont nous avons parlé la semaine dernière. Il voyageait léger, muni d'une gourde, de bons souliers, et d'un maximum de carnets partout, par tous les temps, dans la campagne anglaise, les Alpes ou Venise. C'est ainsi qu'il traquait le sublime. Cette émotion qui excède la beauté et fait sentir la vanité de l'être humain devant les puissances du cosmos. Henri se rappela Werner Herzog, le réalisateur d'Aguirre et la colère de Dieu, dont le premier plan sur le Machu Picchu, avec ses montagnes dans la brume, formait un tableau digne de Friedrich ou de Turner. Quand des aspirants cinéastes demandaient au réalisateur allemand quelle formation suivre pour lui emboîter le pas, il répondait « Au lieu de passer 3 ans dans une école de cinéma, vous feriez mieux de marcher 3000 kilomètres. » Turner incontestablement avait compris cela, se dit Henri, qui reprit son explication d'une voix plus douce. Examinons le traitement du ciel. Il est extrêmement vaporeux. Et sur la ligne d'horizon, tout est si évanescent qu'il y a une indistinction entre la terre, l'eau et l'air. C'est surtout frappant à gauche de la composition, au point de faire songer aux phénomènes optiques des mirages. Pour rendre la propagation des rayons lumineux dans l'atmosphère, Turner les a étudiés pendant des décennies. Il travaillait en parallèle sur du papier avec de l'aquarelle, des pigments dilués dans l'eau, et sur la toile avec de l'huile, dense et compacte. Alors que l'aquarelle était considérée comme une technique très secondaire dans le monde des arts, il lui a non seulement donné ses lettres de noblesse, mais il en a de surcroît transposé tout le potentiel, notamment sa fluidité, dans la peinture à l'huile. Donc, ici, Dadé, c'est comme si on avait une énorme aquarelle faite avec de l'huile.
Oui, il y a de cela.
Maintenant, note que Turner exécuta cette œuvre à la fin de sa vie. Elle ne porte ni date ni signature. Il ne l'a jamais exposée, et on l'a retrouvée avec d'autres toiles d'un style similaire, dans son atelier après son décès. Cela pose quand même question. Peut-être souhaitait-il réellement qu'elle soit si peu ressemblante à ce qu'il avait sous les yeux. Mais, faute d'un document qui atteste clairement son intention, on doit se résoudre à une certaine prudence. Peut-être cette œuvre est-elle juste inachevée. Mais, Dadé, pourquoi est-ce qu'on a un doute ? On devrait quand même bien le sentir. C'est bizarre ce que tu dis. Moi, je suis sûre et certaine qu'il voulait que son tableau soit exactement comme ça. Et je partage ton avis. Mais retiens qu'il est impossible de regarder un tableau ancien en faisant comme si nous ne connaissions rien de ce qui lui a succédé. Turner disparut en 1851 et ne pouvait pas avoir conscience de ce qui viendrait après lui. Mais toi et moi, nous le savons. et ses milliers d'œuvres, ses millions d'images postérieures jusqu'à aujourd'hui, orientent rétrospectivement notre jugement. Mona n'y comprenait strictement rien. Elle avait l'impression de s'accrocher comme l'artiste au mât de son bateau en pleine tempête pour suivre la démonstration tumultueuse de son grand-père, et c'était beaucoup trop difficile. « Ce qui vient après Turner, » reprit Henri, « nous permet de le considérer avec d'autres yeux que ses contemporains. Et c'est ce que nous savons de la suite de l'histoire de l'art qui nous incite à penser que ce tableau n'est pas une simple ébauche, mais un aboutissement. Tu crois ne rien connaître de l'histoire de l'art, Mona? Pourtant là, en ce moment même, ton opinion favorable au sujet de Turner provient en partie d'un tableau du XIXe siècle qui a été réalisé longtemps après sa mort. C'est un tableau que tu connais dans ses moindres détails et que lui ne connaissait pas. Et ce tableau te permet de juger Turner comme tu le juges.
Mais, Daddy, c'est impossible.
Pourquoi donc?
Mais parce qu'on a vu ensemble seulement des tableaux qui ont été faits avant celui-là, sagace-t-elle.
Et moi, je te réponds qu'il y a une œuvre que tu connais par cœur et qui te permet d'aimer ce paysage complètement atomisé en lui trouvant une certaine familiarité.
Je crois plutôt que je l'aime parce qu'il est un peu comme certains tableaux qu'on a déjà vus, mais en plus...
Elle buta sur le qualificatif à employer.
Le petit personnage en rouge, on dirait qu'il est une tache au milieu des couleurs, ou, comme tu disais, qu'il est un tas de poussière.
Je ne crois pas avoir parlé de poussière, Mona. C'est toi qui en parles, et tu parles juste. Car c'est en effet cela que nous dit la peinture de Turner. Tout n'est que poussière, tout n'est que volée de particules. Tu vois donc que tu sais.
Ouais.
Cela te reviendra, crois-moi.
Mona en doutait. Ils abandonnèrent le Louvre et regagnèrent Montreuil. L'enfant serra fort son grand-père, fila dans sa chambre, se jeta sur son lit fatigué de son mercredi. Les murs tanguaient très légèrement tandis que son corps et son esprit se délassaient. Elle pensait, puis ne pensait plus, pensait à nouveau. Elle regardait, tête renversée en arrière et dos cambré, l'affiche pointilliste du musée d'Orsay qui veillait sur elle.
« Sera, » murmura-t-elle. « Dadé avait raison. »